Bonjour, bon après-midi. Vous vous souviendrez que j'avais légèrement débordé la dernière fois parce que j'essayais de terminer le sujet que j'avais entamé, celui de l'archéologie comme un exemple, un cas typique de la combinaison de succès et d'échecs dans l'Empire ottoman pendant les Tanzimates. Et je vais me permettre de déborder aujourd'hui aussi parce que je tiens à finir ce sujet parce que je pense qu'il est important, il dit bien ce que j'ai l'intention de raconter en matière de modernité, de civilisation et de perception de cette modernité par les Ottomans. Voilà, je crois qu'on est tous d'accord, je parle trop, vous excuserez que je grignote un peu, je rogne un peu sur ce cours pour continuer quelque chose qui est, somme toute, lié à la question entamée la dernière fois. J'ai quand même conservé l'image que j'avais choisie pour le thème de cette leçon. Une image que j'aime particulièrement, qui m'a toujours beaucoup fasciné, une image qui est très parlante, même si, comme je vous l'expliquerai, j'étais complètement à côté de la plaque lorsque je l'utilisais il y a de cela quelques années, puisque j'ai découvert que derrière cette image se cachait une histoire très complexe, très surprenante, avec des hauts et des bas, des rebondissements étranges. Et c'est pourquoi, et comme j'ai découvert ça assez récemment, je me suis dit que c'était l'occasion de tester un peu ces découvertes, c'est un grand mot, mais enfin bon, ces petites trouvailles devant vous. Vous voyez à quoi elle ressemble. Il s'agit, et ça reprend le thème d'aujourd'hui, l'union des nations qui forment l'Empire. Donc, Empire, nation, égalité. Vous voyez qu'il y a un drapeau tricolore, un symbolisme lourd. On en parlera bien sûr, mais c'est simplement pour vous donner un avant-goût de ce qui se présentera dans quelques minutes. Et comme si je n'avais pas assez parlé, je vais faire une toute petite digression supplémentaire. Vous savez que j'ai la digression facile, voire compulsive, mais c'est une digression de circonstance, puisque nous sommes aujourd'hui, le 14 février, la Saint-Valentin. Et je voulais faire d'une pierre deux coups. D'abord, saluer votre loyauté et vous souhaiter une Saint-Valentin heureuse et prospère. Je sais pas si c'est... Bon, enfin bon. Mais vous donnez une version ottomane d'une représentation de l'amour. L'amour dans plusieurs sens du terme, avec une image, malheureusement je n'ai pas l'original à ma connaissance est perdu puisque je l'ai pris d'une publication des années 1960, un certain Malik Axel qui avait travaillé sur l'iconographie populaire dans l'Empire ottoman, un ouvrage très incomplet mais très précieux parce que très peu de travaux ont été fait pour traiter justement de cette question de l'iconographie populaire, de l'image populaire dans l'Empire ottoman. Et pourtant, on sait qu'elle était très présente. Il suffit de tourner les pages des voyages de Gérard de Nerval, par exemple, pour apprendre qu'à Galata, à Constantinople même, il y avait toute une galerie où l'on vendait des images populaires, des images sur verre, d'animaux mythiques, de femmes serpents, etc. Et cette image appartient un peu à ce registre. Et par conséquent, comme je n'ai pas souvent l'occasion de parler de la culture populaire, vraiment, puisque je plane plutôt autour des sphères bureaucratiques, administratives et occidentales de l'Empire, je me suis dit que c'était une occasion de commenter une image qui me paraît intéressante. Vous avez au milieu un cœur, hein, un cœur, des petits cœurs comme ça, bon, un cœur, et sur le cœur, vous avez deux lettres, le elif et le hé, A et H, si vous voulez, donc c'est ah. Ah, c'est le soupir, ah, c'est la lamentation, ah, c'est les pleurs. Et c'est donc une image qui reprend le thème de la souffrance en amour, dans plusieurs sens du terme, ainsi que vous le verrez. Vous avez ici un poème en arabe qui est tronqué parce que le premier mot, c'est justement le « ah ». Donc c'est « ah minel ashk verhalatihi, ahraka kalbi biharalitihi ». Ce qui veut dire, en gros, « ah, hélas, de l'amour et de tous ses états, il brûle mon cœur par sa chaleur ». C'est une sorte d'invocation. Il est intéressant de savoir que vous avez une version identique avec « ah minel mevd », « ashk », c'est l'amour, « ah minel mevd », c'est « hélas, de la mort ». Vous voyez que le même poème est utilisé aussi bien pour l'amour que pour la mort, ce qui en dit long. Et petit détail intéressant, calligraphique, le « hay », ce « h », et ce qu'on appelle en persan le « hay d'Ocheshme », le « h » à deux yeux, parce que la forme rappelle le fait, rappelle en quelque sorte un visage, et l'artiste s'est amusé, et ça se fait souvent, à mettre deux yeux dans les trous de la lettre, dans les orifices de la lettre, pour donner à son image une part de réalisme. Le réalisme ne s'arrête pas là, puisque vous avez là ce qu'ils appellent le Seylab et Tchechm, c'est-à-dire le déluge des yeux, ce sont les larmes qui se font rivière et qui coulent. Et vous avez au sommet, alors là vous avez très vaguement, on l'a reconnu, une flèche qui transperce le cœur, signe apparemment universel d'un cœur meurtri par l'amour. Au-dessus vous avez une sorte de poignard qui est apparemment planté dans le cœur, et la fumée, est-ce vraiment de la fumée, n'ayant pas vu l'original, est-ce de la fumée ou est-ce du sang, je ne sais pas, mais vous avez un petit mot qui est marqué dessus, c'est Sevda, et Sevda ou Kara Sevda, c'est l'amour noir, c'est la mélancolie. Donc vous avez quelque chose de très fort en matière d'image, et puis vous avez les petits cœurs là qui s'enchaînent pour mener au cimetière. Pour mener, là vous avez un cénotaphe, et c'est très surprenant. Il y a marqué Merkad, Merkad veut dire tombe. Donc les petits cœurs mènent jusqu'à la tombe, et là vous avez un petit poème de nouveau qui dit voilà, Muhabbet bir beladır şahım giriftar olmayan bilmez cefaye çekmeyen aşık sefanın kadrini bilmez. Je traduis, l'amour est une souffrance que seul connaît celui qui l'a vécu. L'amoureux qui n'a pas souffert ne saura goûter au plaisir. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, je reconnais, mais en tout cas, c'est une image, à mon avis, très intéressante, et je n'en ai pas vu d'autres. Il y a beaucoup d'images sur le « ah », etc., mais cette représentation du cœur, de l'amour, de la mélancolie, de la mort, et le fait qu'on conjugue en quelque sorte le « ah » sous trois formes. Il y a trois soupirs possibles pour la miséricorde divine, pour l'amour de l'aimer et enfin pour l'espoir de guérison. C'est un document intéressant, donc voilà, c'était une petite digression. Et puisque je vous disais que je voulais faire d'une pierre deux coups, permettez-moi d'y ajouter un petit gravillon. Ma femme est probablement dans la salle, cachée, bien cachée quelque part. Je lui souhaite la Saint-Valentin aussi. Voilà, et c'est cela étant dit, passons à des choses sérieuses. Enfin, y a-t-il plus sérieux que la mort? Je ne sais pas. Je continue sur ma lancée de la dernière fois. Vous vous souviendrez que je vous avais parlé de ce qui avait précédé la fondation, l'établissement de la première forme de musée, le musée de l'église de Saint-Irène à Constantinople. Je vous avais dit que ça avait été provoqué par la combinaison d'un sentiment, d'un désir d'émulation de ce que les Occidentaux faisaient. Je vous avais dit que pendant les années 1840, il y avait toute une série de de chantier de fouilles très impressionnant, très visible, que les Ottomans observaient, essayaient autant que possible de contrôler. Et c'est un peu l'un de ces chantiers, celui d'Halicarnasse, qui avait tout d'un coup donné aux Ottomans l'idée de se débarrasser un peu de toutes ces demandes en damant le pion aux Occidentaux, en faisant ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire en établissant un musée. Donc, émulation, se débarrasser en quelque sorte de ce sentiment d'exaspération causé par les Occidentaux, et bien sûr, ce que j'appelle le cahier des charges de la civilisation, c'est-à-dire cette obsession dans les années 1840 qu'on veut faire comme les Occidentaux. On veut se civiliser, on veut faire ce qui appartient à la liste, en quelque sorte, de ce qui identifie une nation civilisée. Et le musée fait partie de cette liste, de même que une bibliothèque, une université, etc. Mais ce que je vous avais dit, c'est que toutes ces passions, toutes ces découvertes, tous ces investissements culturels, scientifiques, n'avaient pas fait long feu. Le musée est celui qui, d'une manière ou d'une autre, va vivoter avant d'être repris dans les années 1880 sérieusement par Osman Hamdi Bey. Mais les autres innovations, par exemple l'université qui est fondée juste à côté du musée, elle ne verra jamais le jour. Elle sera ouverte en 1863 pour une année uniquement. Donc vraiment, la forme précède en quelque sorte le fond, le contenu. Je tenais encore une fois à vous montrer quelques documents qui disent bien comment l'esprit de ces Ottomans régénérateurs, réformateurs, modernistes, civilisationnistes fonctionne, ce qu'ils disent, comment ils expriment ce désir de faire comme les autres. Voici par exemple une circulaire qui a été envoyée en 1846 à tous les pachas, tous les gouverneurs des provinces susceptibles de renfermer des antiquités. Et là, bien sûr, on se fonde sur l'expérience, on regarde un peu où les Anglais et les Français sont en train de fouiller. Donc on envoie au pacha de toutes ces provinces cette circulaire qui dit, en gros, l'envoi à Constantinople d'objets anciens appelés antiques. Vous voyez, on explique ce que c'est, puisque en turc, « asar atika », les anciens objets, les œuvres anciennes, c'est un néologisme. On l'a inventé pour traduire, en quelque sorte, antiquité. Alors qu'on dispose de quelque chose de plus populaire, démotique, c'est « antica ». Et « antica », ça n'est pas du turc, bien sûr, c'est de l'italien. Antico, et vous voyez qu'il y a deux registres, donc Antica, qui est reconnu par tout le monde comme étant une sorte de dénomination très générique d'objets anciens, et Asar Atika, qui a le poids de l'arabe, puisque c'est une formation à partir de l'arabe, c'est un terme qui revendique en quelque sorte une forme de scientisme, une forme de valeur archéologique et scientifique. Donc c'est vraiment un effort de traduction. Encore une fois, je vous rappellerai à quel point il est important de réfléchir à la terminologie, au vocabulaire des documents. On l'avait fait pour les Tanzimat en 1839. Là, c'est encore plus flagrant parce qu'on sait d'où vient la terminologie. Donc, en ce qui concerne l'envoi à Constantinople d'objets anciens appelés antiques, afin d'être placés dans le musée en turc, récemment bâti et arrangé comme une des merveilles modernes de l'Europe. C'est touchant. On veut se vanter d'avoir fait quelque chose qui rappelle justement ces richesses culturelles de l'Europe. Les Ottomans, notamment les bureaucrates, les diplomates, voyagent à droite et à gauche. Ils ont connaissance de ce à quoi ressemble une capitale occidentale avec ses édifices publics, ses musées, ses bibliothèques, etc. Les antiques requises sont des objets des temps anciens, donc on explique au pacha, vu d'Istanbul, le pacha est un plouc, le pacha n'aura bien sûr pas la connaissance profonde que les bureaucrates d'Istanbul ont déjà des antiquités, donc on lui explique encore mieux. Ce sont des objets des temps anciens qui se trouvent parfois sous le sol, et oui, ça définit bien l'objectif des fouilles, comme des couvercles ou des tombes en forme de coffres en pierre. C'est un sarcophage. C'est une manière de décrire graphiquement, visuellement, l'un des objets les plus visibles des fouilles à l'époque. Il y a des sarcophages. En gros, si vous regardez l'inventaire des fouilles dans ces années-là, vous avez des statues, des colonnes et des sarcophages, en gros. Donc, c'est normal qu'il parle de ça, des tombes en forme de coffre avec des inscriptions autour, ou des objets taillés dans la pierre avec des figures humaines et animales. Encore une fois, la tridimensionnalité n'existe pas, donc on traduit en fait statue par ce qu'on peut, par de la pierre gravée, avec des images. Alors ça peut aussi bien être des bas-reliefs que des statues, mais en tout cas, encore une fois, c'est le descriptif qui l'emporte sur l'analytique, bien sûr, et animal apprécié de tous. Alors, l'appréciation de tous, c'est quelque chose, c'est de la rhétorique, mais c'est de la rhétorique qui reprend, en fait, ce que les Occidentaux sont en train de dire aux Ottomans depuis les années 1820, que ces objets ont beaucoup de valeur, qu'ils sont importants pour la connaissance de l'histoire, la connaissance de la civilisation, etc. Lorsque vous en trouverez, indiquer leur forme et leur apparence, leur technique, leur nom, les parties qui pourraient manquer, le prix qu'on en donne sur place, et s'ils conviennent, ils seront expédiés. Voilà. Donc on leur dit, en gros, voici ce qu'est une antique, creusez, trouvez, envoyez. Et j'ai un exemple qui dit bien comment ça marche, puisque j'ai étudié dans le détail une campagne de fouilles ottomane en 1847, celle d'un certain Zalif Mustafa Pacha, qui était gouverneur de Jérusalem juste après l'envoi de cette circulaire. Et dans une de ses correspondances, lorsqu'il parle justement des objets qu'il a trouvés et qu'il est sur le point d'expédier à Constantinople, on voit bien qu'il a suivi les instructions au pied de la lettre. Une antique en marbre vieille de 3600 ans, hein, on lui a demandé de décrire. Découverte au lieu dit d'Ascalon. Ascalon, c'est Ashkelon aujourd'hui, dans la bande de Gaza, au nord de la bande de Gaza, en Israël aujourd'hui, dans les environs de Gaza, ayant été en fin de compte apportée après bien des dépenses. Alors ça, bien sûr, c'est pour obtenir une compensation. Il veut être défrayé de ses dépenses. Il apparaît selon l'opinion des consuls se trouvant ici. Donc il est allé tout de suite consulter les consuls à Jérusalem, ce qui déjà montre bien qu'ils ont cette idée parfois fausse que les Occidentaux savent très bien de quoi il s'agit. Que cette pierre, décorée de trois humains et de divers animaux, est fort précieuse et que si elle était vendue, elle pourrait atteindre la valeur de 2 à 3 000 bourses, ce qui représente une belle somme, environ 13 500 livres sterling de l'époque. C'est énorme, c'est une grosse somme. Alors, bien sûr, est-ce vrai ? Ce qui est exceptionnel dans la documentation, comparé au reste de la documentation ottomane, cette correspondance est accompagnée d'un dessin. Et un dessin extrêmement détaillé, très bien fait, probablement par un artiste local, probablement par un artiste chrétien local, qui décrit les trois humains et les animaux. Donc, on sait exactement à quoi ressemble l'objet. Et ensuite, on a, et c'est ça qui est très intéressant, on a le petit rapport de ce qu'en ont dit les consuls et les experts occidentaux. Voilà. Cette antique a 3600 ans, et le sphinx qu'on y voit était un beau monstre qui se tenait au sommet d'une montagne élevée près du pays d'Istef. ainsi qu'on le voit, il avait la tête et le corps d'une femme, des pattes de chien, des griffes de lion et des ailes d'aigle. Et ce sphinx posait une question aux voyageurs qui passaient par là et tuait ceux qui ne trouvaient pas la réponse. Et la question était, quel est donc l'animal, je crois que vous la connaissez, qui a quatre pattes le matin, deux à midi et trois le soir. La souffrance infligée par ce sphinx était telle que Craoun, roi d'Istef, promit qu'il donnerait sa fille Iocasti en mariage à quiconque tuerait ce monstre. Alors, deux choses. Alors, vous avez bien sûr compris, Istef, c'est Thèbes, Craoun, c'est Créon, mais en fait, c'est pas Créon, bah, c'est pas grave. Mais, Jocaste, bien sûr, on la donne pas en mariage, en fait, on tue son mari pour l'épouser quand on est son fils. Bon, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ce qui est fascinant, c'est que, primo, je vous rappelle l'image, pour raconter cette histoire, il faut vraiment n'avoir vu que ça. Et je crois que ça prouve que j'ai tendance à casser du sucre sur le dos des Ottomans. Franchement, les consuls, les consuls français, britanniques et autrichiens à Jérusalem, apparemment, ça ne volait pas beaucoup plus haut, puisque on voit bien qu'ils se sont reportés sur la seule histoire, le seul mythe qu'ils connaissaient. Ils se sont dit, ah ben voilà, le sphinx, Œdipe, etc. On va lui raconter l'histoire d'Œdipe, alors qu'en fait, cette histoire, c'est la découverte sur Naxos de d'Ariane qui a été abandonnée par Thésée et qui est surprise par deux satyres de Dionysios. Bon, c'est une histoire complètement différente. C'est un fragment de sarcophage, bien sûr, mais voilà. Pour vous expliquer un peu la chose. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'objet que j'ai retrouvé dans les dépôts du musée archéologique d'Istanbul, l'objet est un objet très quelconque. C'est un fragment de sarcophage romain de la fin du IIe siècle de notre ère. C'est donc 3600 ans, il dit, où ils disent n'importe quoi, dire qu'il valait je ne sais combien de milliers de bourses, ça aussi c'était ridicule, mais vous voyez que le peu d'informations dont ils disposaient leur suffisait à broder autour de l'importance qu'on sentait qu'Istanbul donnait à ce genre de découverte et à la constitution d'une collection à Istanbul. Alors bien sûr, cette collection, elle ne va pas faire long feu, puisque le musée, il sera visité en 47 par le sultan lui-même, de passage parce qu'il est en train de faire restaurer la mosquée à l'époque de Sainte-Sophie, mais à partir de 48, plus rien. Lorsque Albert Dumont visite ce musée en 1868, c'est un chaos complet, et par conséquent, personne n'y est vraiment admis. Ça a été complètement... c'est un feu de paille. C'est un projet de civilisation qui n'a pas vraiment démarré et qui est resté dans un état végétatif pendant des années. Autre indication qui, moi, me fascine et dont je n'ai pas encore la réponse, c'est un phénomène, un revirement dans la politique archéologique ottomane à partir de 1847 qui me surprend énormément puisque en 1847 j'ai trouvé dans les archives ottomanes un brouillon, un projet de contrat de collaboration entre le British Museum et le gouvernement ottoman. Et en gros, je retiens deux articles de cette convention, septièmement, huitièmement. Septièmement, toutes les antiquités trouvées reviendront à l'état sublime, l'Empire ottoman. Huitièmement, mais s'il devait exister deux objets identiques, des doublons, donc, l'un sera cédé à la Grande-Bretagne, et s'il était fait de métal précieux, sa valeur exacte en sera payée dans sa totalité. Peu importe, ce qui compte, c'est justement ça. En gros, c'est un système pas vraiment de partage, puisque les Anglais ne retirent que des doublons. Le reste reste sur place, reste est acquis par le musée. Et pourtant, comme disait Aznavour, quelques années plus tard, dès 52, il y en a peut-être avant, je vois une série de documents émanant de la Sublime Porte concernant l'autorisation, la permission donnée à des fouilleurs, à des Occidentaux voulant fouiller dans l'Empire ottoman, où les conditions sont tout d'un coup inversées. C'est-à-dire, en 52 pour Bagdad, Polemil Botta qui est en train de fouiller à Khorsabad. Voici les conditions qu'impose le gouvernement. À condition que des objets uniques leur soient remis aux Français et que l'un de ceux trouvés en plusieurs exemplaires revienne au sultanat lui-même. C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les Ottomans sont en train de se spolier eux-mêmes. En 55, avec les Anglais, qu'ils soient remis au sultanat sublime, les objets antiques restant une fois que les Anglais auront pris un exemplaire de chaque et tous ceux dont ils pourraient avoir besoin. Donc, servez-vous, et puis ceux dont vous n'avez pas besoin, les doublons, etc., vous les laissez. Pareil, en 58, les objets uniques leur seront donnés, et l'on prendra pour le musée du sultanat sublime, un exemplaire de tous ceux qui seraient identiques. Je n'ai pas encore compris comment ce revirement s'est fait. C'est-à-dire que là, vous avez quelque chose... Est-ce vraiment une sorte de machiavélisme presque démoniaque des diplomates britanniques, français, qui ont réussi à... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toujours est-il que ce qui était parti en 47 sur une base, somme toute, tout à fait acceptable pour le partage et pour la définition des conditions de fouille dans l'Empire ottoman, avait dégénéré au bout de quelques années en un système d'exploitation qui lésait systématiquement les Ottomans et enrichissait les collections occidentales. À tel point que en 1868, donc 21 ans après la convention qui n'a pas, à mon avis, été ratifiée avec le British Museum, c'est un gouverneur, le gouverneur d'Aden, donc d'Izmir, si vous voulez, qui, en 68, voyant James Wood qui fouille à Éphèse, voyant James Wood expédier des wagons entiers, parce qu'il y avait déjà une ligne de chemin de fer entre Kassaba et Izmir, des wagons entiers de pierre, de marbre provenant d'Éphèse, il se dit tout d'un coup, mais c'est pas possible, d'autant plus qu'ils sont censés nous en laisser quelques-uns. Et rien. Et quand même, il a tout d'un coup une illumination et dit « S'il est vrai que la règle a été adoptée pour les individus effectuant des fouilles en quête d'antiquité selon laquelle l'un des objets trouvés en double est remis au musée de l'État sublime et que les autres, trouvés en un seul exemplaire, leur sont abandonnés, il est inutile de rappeler que de tels doublons ne sont trouvés que fort rarement et que la plupart sont uniques. » Finalement, un type s'est réveillé, un type, Hekim Bache Ismail Pacha, gouverneur je ne serai pas de mauvaise langue en disant que c'était un converti crétois. Mais enfin bon, je l'ai été. Mais bon, mais c'est surprenant. Donc 20 ans après, 20 ans plus tard, à une époque où le musée est dans un état de végète depuis des années, tout d'un coup, les Ottomans se disent « Mais mon Dieu, on a fait une grosse bêtise et on va corriger ça. » Et ils le corrigent. Et ce qui est amusant, c'est que vous avez là une petite poussée externe et qui d'autre que Eugénie de Montijo, l'impératrice des Français, lors de son passage pendant les préparatifs de son passage par Constantinople, puisqu'elle va inaugurer le canal de Suez en 69, elle passera par Istanbul, et en 68, à la fin de l'année 68, elle écrit à l'ambassade ottomane à Paris en leur disant « Mais vous devriez vous munir d'un musée historique. » Et c'est juste à ce moment que Vahali, le gouverneur d'Izmir, d'Aden, est en train d'essayer de secouer un peu la bureaucratie pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, et par conséquent, il y a au début, tout au début de l'année 1869, en janvier, un texte du premier règlement des Antiquités sort du Conseil d'État. Le Conseil d'État, finalement, prend cette affaire en main et le résultat sera une première réglementation qui ne sera pas vraiment respectée, mais qui, en tout cas, reprendra le principe de ce que les produits des fouilles restent ottomans et que, par conséquent, il n'y a que le sultan pour pouvoir agréer à la cession de certains objets. Le problème, c'est que tous les diplomates obtiendront cette autorisation du sultan et que, par conséquent, la spoliation continuera plus ou moins au même train jusque dans les années 1880. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir à quel point les Ottomans sont, entre guillemets, à côté de la plaque. À côté de la plaque, pourquoi ? Parce que ça n'est pas un véritable intérêt. C'est-à-dire que le musée n'est pas vraiment une institution qui est visitée, qui compte, si vous voulez, parmi les succès des Tanzimat. Et par conséquent, on sacrifie ce projet très facilement, ou plutôt, on le laisse tomber dans l'oubli, ce qui explique que les Occidentaux aient continué à exploiter les ressources archéologiques de l'Empire pendant des décennies. En 69, ils fondent à nouveau un musée impérial, et en des termes qui sont extrêmement surprenants, puisqu'on parle de fondation, comme s'ils avaient complètement oublié qu'en 46, ils en avaient déjà fondé un. C'est pas tout à fait vrai, puisque c'est le même lieu qui va être utilisé, mais la rhétorique est celle d'une fondation, et cette fois-ci, on voit la rhétorique de la civilisation former et établir un musée dans la capitale impériale à l'image de ceux qui se trouvent dans tous les États civilisés d'Europe. Quand vous dites ça, et les Ottomans le disent souvent, ce qui se fait dans les États civilisés, ce qui se fait dans les États, c'est une sorte d'aveu, en quelque sorte, du fait qu'ils ne se considèrent pas encore civilisés, ils sont sur la voie de la civilisation et que, par conséquent, il y a une sorte de mea culpa assez naïf qui sous-tend toutes ces activités culturelles et scientifiques. Et malheureusement, chasser le naturel, il revient au galop. On voit que dans les années 50, l'institution qui réussira le mieux en matière de, je dirais pas muséographie, mais en tout cas d'exposition, c'est le musée des anciens costumes, El Bisey Atika, les anciens costumes, qui est fondé en 1852. Pourquoi ? Parce que le touriste veut ça. Le touriste, vous vous souviendrez de Daubignosc, qui était dégoûté de voir tous les Ottomans en redingote et en pantalon. Il avait la nostalgie des grandes moustaches, etc. C'est pareil pour tous les touristes. Ils arrivent à Istanbul, ils visitent la ville et ils sont dégoûtés de voir que, en gros, énormément de l'environnement leur rappelle n'importe quelle ville d'Europe. Et par conséquent, ce qu'ils veulent, c'est la couleur, c'est les costumes, et par conséquent, on fonde un musée qui reprend, en fait, les janissaires, qui reprend ce qu'on a sacrifié à la modernité en 1826, ce qu'on a banni, ce dont la mémoire a été effacée, damnatio memoriae, ce que l'on a traité de vampires et de tous les noms, tout d'un coup, on les ressuscite. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui vend. C'est quelque chose que le public occidental attend de voir et voudrait voir à Istanbul. Et comme il ne le voit plus dans l'armée, dans la rue, etc., on lui crée une sorte de petit musée des costumes anciens. Et je me suis amusé à faire de la statistique à partir des autorisations, des permissions données par la Sublime Porte à des visiteurs occidentaux par le truchement des ambassades à Constantinople pour essayer de voir ce que les gens visitaient. Et voici les résultats. En gros, vous avez le palais impérial. Alors, ils ne visitent pas tout, mais avec une autorisation, on voit un peu du trésor, on voit la cour, on voit... Le palais est en train de se muséifier. puisque les Ottomans, sous Abdülmecid, dans les années 1850, on commence à bâtir des palais à l'occidental, des tartes à la crème sur le Bosphore, qui reprennent l'architecture extrêmement lourde, rococo du 19e, et c'est là qu'on va s'installer, puisqu'on trouve que le charme désuet de Topkapı, ça n'est plus pour nous, ça n'est pas, ça ne dit pas, ça ne décrit pas la modernité dans laquelle l'Empire s'est engagé. Et par conséquent, le palais de Topkapı devient en quelque sorte une curiosité, même si la muséification officielle, elle n'aura lieu qu'en 1924. Sainte-Sophie, bien sûr, c'est l'obsession de tous les Occidentaux qui viennent ici, et bien sûr, c'est Sainte-Sophie parce que c'est Sainte-Sophie, parce que c'est la fin de Byzance, enfin, c'est pas la fin de Byzance, mais c'est Byzance, etc. Et puis, le musée des costumes anciens. Ensuite, vous avez l'Arsenal qui vient en quatrième place, et quand je dis l'Arsenal, c'est justement Sainte-Irène, mais ce qu'ils voient à l'Arsenal, ce n'est pas les antiquités qui sont dans l'atrium bien caché au fond du bâtiment, c'est la nef principale qui est recouverte d'épées, de sabres, de bannières, de lances, de cuirasses, etc. C'est un musée du Moyen-Âge, en quelque sorte, comme on les aime en Occident, comme on les fait en Occident. Et là, lisez Nerval, lisez Gautier, lisez tous les voyageurs qui ont laissé des traces de leur passage à Constantinople dans les années 1850. On leur donne le sabre, soi-disant, de Mehmet II, etc. Donc c'est une sorte de Disneyland pour le touriste en quête d'émotions fortes et d'exotisme qui reprend en quelque sorte le thème de ce musée des costumes anciens. Et par conséquent, le musée des antiquités, personne n'en parle, personne ne le voit. Et en fait, même pendant sa période de gloire, dans les années 1890-1900, sous la férule de Osman Hamdi, le musée impérial, qui a déjà l'aspect d'un musée de belle carrure, du calibre des musées occidentaux, personne ne le visite. Il n'y a pas de visiteurs. C'est le rêve de tout conservateur. C'est un musée sans visiteurs. Ce n'est vraiment que vers les années 1910 qu'on commence à avoir des écoliers, etc. Et c'est surtout sous la République qu'on verra le développement. Et dernier point, et je passe à mon image, dernier point, si vous faites la statistique des visites aujourd'hui à Istanbul, vous verrez à peu près la même distribution pour à peu près les mêmes objectifs, c'est-à-dire le palais de Topkapı, les Turcs y voyant la gloire nationale de leur passé que l'on fait mousser de plus en plus depuis une dizaine d'années. Sainte-Sophie, bien sûr, parce que c'est le fruit de la conquête et beaucoup de Turcs revendiquent sa reconversion au statut de mosquée. Par conséquent, même si on le visite en tant que musée, on a dans le fond de la pensée l'idée que c'est le droit de l'épée. Le droit de l'épée, c'est une conquête, c'est un trophée. Et les Occidentaux voient ça à l'inverse, mais exactement de la même manière, parce que l'orientalisme et le nationalisme ont tendance à converger très fortement, puisque pour le touriste moyen occidental, le palais impérial, c'est la gloire des sultans, et c'est surtout le harem, c'est l'exotisme, c'est l'Orient. Et Sainte-Sophie, c'est l'Orient byzantin, c'est une église perdue. Donc, en fait, vous avez une image en miroir du côté des nationalistes, du nationalisme turc et de l'orientalisme occidental. Alors, nous n'avons plus de musée des costumes anciens, mais comme remplacement, nous avons depuis quelques années, depuis presque une dizaine d'années, un panorama de la conquête de Constantinople qui ne plaît pas forcément aux Occidentaux, mais en tout cas qui plaît aux Turcs parce que c'est un diorama, vous savez, comme on les faisait au XIXe siècle, qui recrée l'atmosphère de la prise de Constantinople, donc avec effets lumineux et sonores, etc. Donc ça va en plein dans la visualisation d'un moment que l'on considère être extrêmement important dans le récit national. Et ensuite, à la place de l'Arsenal, vous avez maintenant ce qui remplace l'ancien musée impérial, c'est-à-dire les musées archéologiques d'Istanbul, qui recueillent à peu près le 10%. dixième de chacun de ces monuments. 400 000 contre 4 millions chacun. Et de ces 400 000, la moitié, ben, ce sont des gosses qui sont enchaînés et menés de force à, comme faisant partie de leur programme. Ce qui veut dire, en gros, que le Turc moyen, il n'a aucun intérêt pour le musée archéologique parce que c'est pré-1453, c'est pré-turc, c'est pré-islamique, donc ça ne fait pas partie de son héritage. Et pour les Occidentaux, il n'y a pas de curiosité non plus, puisque la Turquie est censée donner l'archéologie à l'état brut, des sites, Éphèse, Nemrut, Milet, Didym, Priene, etc. Mais on n'attend pas des Turcs qui fassent un musée. Les musées, c'est pour l'Occident. Les musées, c'est pour Berlin, c'est pour Londres, c'est pour Paris. Donc là aussi, vous avez une sorte de convergence d'une vision nationaliste et d'une vision orientaliste, il faut le dire, qui finissent par avoir le même effet et qui reproduisent malheureusement ce qui était un patron, une figuration des visites dans les années 1850, plus de 150 ans plus tard. Voilà. Maintenant que je me suis rattrapé, je vais passer à mon image. Je passe à mon image. Et je vous explique pourquoi elle me plaît tant. Cette image, je vous le disais, je l'utilisais depuis longtemps, mais vous avez commencé le web, vous cherchez une image, vous trouvez une image, mais il n'y a pas forcément d'informations. Et toutes les images que j'avais trouvées de cette gravure étaient sans légende, il n'y avait pas le texte du bas, etc. Donc c'est une image que j'avais immédiatement interprétée comme une sorte d'image de précurseur de la réforme de 1856, c'est-à-dire l'édit des réformes qui va finalement donner aux sujets ottomans une égalité totale devant la loi et une sorte de citoyenneté, tout en restant sujet, c'est-à-dire la reconnaissance de l'égalité entre les musulmans et les autres, qu'ils soient chrétiens, juifs ou autres. Enfin, mais c'est surtout pour les chrétiens et les juifs que ça se passe, n'est-ce pas ? Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque c'est un point charnière, un point qui blesse la majorité musulmane qui n'aime pas voir cette égalité, qui croit en l'équité, l'adalet, et je pense vous avoir déjà dit à plusieurs reprises que je pensais que c'était un problème qui grève encore la démocratie turque, la laïcité et la démocratie turque, le fait que même aujourd'hui, les Turcs n'acceptent pas vraiment l'égalité de ceux qui ne sont pas musulmans. Et par conséquent, malgré tous les efforts de laïcité qui sont très cosmétiques de la République kémaliste, le fondement de l'identité turque reste, à un niveau populaire, l'islam. Et par conséquent, 1856, c'est un tournant où tout se joue et ce sera une faillite au bout de 20 ans, 30 ans, sous Abdul Hamid, etc. Donc cette image, pour moi, était très importante puisqu'elle préfigurait en quelque sorte, iconographiquement, et vous savez que j'aime les images, ce désir de créer un empire constitué par des nations. Et vous voyez qu'il y a un drapeau tricolore. Vous savez qu'au XIXe siècle, le drapeau tricolore, il est révolutionnaire. Même si le sens du terme révolution change avec le temps, les révolutions des années 1830, Pologne, Belgique, etc., ce sont des révolutions bourgeoises, nationalistes, c'est le désir de créer... Donc ce n'est pas encore le printemps des peuples de 1848, etc. Donc c'est beaucoup moins radical, c'est beaucoup plus bourgeois, etc. Mais c'est quand même quelque chose, le drapeau tricolore est quelque chose qui secoue un peu les fondations du concert de l'Europe et le conservatisme dont Metternich, encore une fois, est l'architecte et le meilleur représentant. Donc il y a un élément de révolution. Vous voyez le symbolisme, puisque là vous avez marqué droits égaux, et ça c'est quelque chose qui renvoie bien sûr au Tanzimat. Vous avez au sommet de la hampe du drapeau, vous avez une croix, un croissant et la table des lois, donc la représentation des trois religions. Et puis, bien sûr, vous avez un occidental, un turc, entre guillemets, j'utilise la terminologie du temps, un grec, quand vous voyez une fustanelle, en général, c'est un grec, ou bien, parfois, très rarement, un bavarois, dans le cas d'Othon, le roi de Grèce, n'est-ce pas, qui joue à être un grec. Et puis, vous avez un arménien, et vous avez un juif. Donc, je me disais, c'était quelque chose qui faisait partie de la propagande ottomane, égalitaire, etc. Ce n'était pas entièrement faux, mais j'ai pu creuser, et vous savez que j'aime ça, gratter un peu, et essayer de voir si je pouvais reconstituer l'archéologie d'une image, le contexte qui entoure une image, qui jusque-là était anonyme. Pour commencer cette investigation, j'ai eu un coup de chance, en faisant la connaissance d'un collègue qui est musicologue et qui travaille sur la musique occidentale, qui s'intéresse à l'Orient, et notamment à Liszt, qui est passé à Constantinople dans les années 1840, et c'est lui qui a découvert je ne sais pas si vous connaissez Bagnères de Bigorre. Ah, vous connaissez, bon, d'accord. Bagnères de Bigorre, grande métropole des Pyrénées, où en 1832, se fonde une compagnie musicale, celle des chanteurs montagnards d'Alfred Roland. Tout un programme. Et ces chanteurs montagnards montent leur affaire. Donc ce sont c'est un peu comme les Corses, apparemment. Ils chantent. La montagne, ça donne envie de chanter, j'imagine. Et ce sont des gens qui chantent, qui s'organisent en espèce de société et de troupe, et qui se lancent dans une, c'est le terme utilisé, une odyssée, qui les amènera jusqu'en Égypte, en Terre Sainte, à Constantinople, en Grèce, et ensuite ils rentrent en France. Et cela dans les années 1845. Et cet Alfred de Roland tenait une sorte de registre, une sorte de cahier, une sorte d'agenda de ce voyage, où il collait des images, des documents, etc. Ce que les Anglais appellent un scrapbook, un livre de souvenirs, en quelque sorte, où il collait des traces, en quelque sorte, de ses pérégrinations à travers la Méditerranée et le Proche-Orient. Et parmi celles-ci, étaient justement les images, cette image-là, mais aussi une autre image, la voici, et vous voyez dans quel état elle est, parce que celle-là, l'autre, j'ai eu de la chance, je l'ai trouvée sur le marché. Elle est en très bon état, mais celle-ci, dans ce cahier, elle a pris un sale coup, mais on voit bien de quoi il s'agit. En fait, c'est comme une séquelle à celle-ci, puisqu'on voit les mêmes cinq individus représentant les nations, avec le même drapeau, en présence du sultan Abdulmejid, des bureaucrates ottomans. On peut deviner peut-être que celui-ci est Mustafa Reşit Pacha, et puis là, des occidentaux, probablement le corps diplomatique, etc. On lit le sultan recevant les députés des diverses populations qui demandent des droits égaux. C'est écrit en gros, là. Et c'est là que, tout d'un coup, je me suis dit, mon Dieu, c'est intéressant, c'est quelque chose de très précoce, puisque 1845, c'est bien avant l'édit des Tanzimat de 1856, l'édit des réformes de 1856, et je me suis posé en quelque sorte un défi: est-ce que je peux reconstituer l'histoire de cette image et de tout ce qui l'entoure, en sachant que l'image n'est plus anonyme maintenant. On voit au-dessous une mention de l'auteur de cette image et le distributeur de cette image, c'est un certain docteur Barachin, qui est Gaspard Louis Barachin, parfois Louis Gaspard Barachin. Et là, j'ai pu creuser dans sa biographie et essayer de reconstituer l'histoire qui est assez surprenante des aventures du bon docteur Barachin, que vous voyez là, posant avec un fez, à la manière de bien de ces occidentaux qui, pendant les années 1830, 40, 50, vont s'exiler en Orient, se mettre au service soit de l'Empire ottoman, soit de l'Égypte. On pense à Clobey, etc. Il y a beaucoup de cas comme ça, Mariette Pacha, des Occidentaux qui deviennent Pacha, qui deviennent Bey, et qui s'intègrent d'une manière ou d'une autre dans une société orientale avec un objectif de civilisation, de modernisation, de réforme, etc. Alors, notre Gaspard Louis Barachin, quand on fouille bien et quand on a enfin un nom qu'on peut mettre sur l'image, on découvre qu'il est né en 1791 et que c'est quelqu'un qui a commencé très tôt à s'intéresser, disons, à la politique par le biais de Napoléon. Il était engagé dans l'armée napoléonienne en tant qu'élève chirurgien et il est devenu chirurgien dentiste. J'allais dire qu'il n'y a pas de saut métier, mais c'est complètement déplacé de le dire. Mais le rapport, si vous voulez, entre un chirurgien dentiste et le message politique, effectivement, bon, ça surprend un peu. Et il est admis en audience par Napoléon et il devient chirurgien aide-major dans la garde impériale. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que très tôt, après la chute de Napoléon, il fait partie un peu de ces frustrés de Sainte-Hélène, de ces frustrés de la fin de l'épopée napoléonienne. Il va se recycler dans l'aventure. Il y en a beaucoup comme ça. Vous vous souviendrez que c'est un peu le cas de ce Daubignosc dont je vous parlais la dernière fois, celui qui avait développé une obsession des grandes moustaches, n'est-ce pas ? Lui aussi, c'est un ancien grognard qui se recycle dans la police ottomane. Bon. Alors, lui, il va plus loin, apparemment. Il va jusqu'en Iran, jusqu'à Kermanshah. À Kermanshah, donc l'Iran occidental, en fait, près de la frontière avec l'Irak ottoman, et il se met au service. Alors, on n'a malheureusement pas beaucoup de détails, mais apparemment, il est resté 3 ans à Kermanshah au service d'un des fils de Fath Ali Shah Qajar. Fath Ali Shah, que l'on voit ici chasser la panthère, le lion, bon, chasser, avec, et c'est pourquoi j'ai choisi l'image, avec ses 22 fils. Alors, les petites miniatures du chat, ce sont ses fils. Il en avait un paquet. Et l'un de ses fils, mais son fils aîné, en fait, était, voilà, Mohamed Ali Mirza Dowlat Shah, avec la particularité que, parce qu'il ne descendait pas d'une femme reconnue comme pouvant transmettre la noblesse du sang, elle était géorgienne, il n'était pas l'héritier de son père. Mais c'était un jeune homme, apparemment extrêmement actif, que son père a nommé gouverneur de Kermanshah, poste qu'il a occupé jusqu'à sa mort en 1821. Voici son palais qui aujourd'hui a disparu à Kermanshah. Alors, Barachin, qui faisait-il ? Était-il dentiste ? Était-il conseiller ? Parce que vous savez qu'il y a un flou en général dans ce genre d'aventuriers. Ils ont énormément de cartes à leur jeu. Ils ont plein de connaissances qu'ils mettent au service de ces sociétés orientales qui sont émerveillées, intéressées par l'Occident. Trois années en Iran, après quoi il retourne. Et il retourne en France, et en France, on le retrouve dans les années 1820 grâce à des rapports de police. Comme quoi la police a toujours du bon. Les rapports de police, il y a un livre noir de la police des années 1820 qui recueille les informations qui étaient collectées par des agents de police sur des individus jugés suspects, dangereux, etc. Et Barachin en faisait partie, non qu'il fût vraiment violent, mais il était libéral, ce qui, dans les années 1820, était déjà assez mauvais. Et il y a un rapport, et ça, je pense que c'est la clé du mystère, un rapport qui le place à Bagnères. À Bagnères, où apparemment, c'est les conclusions du policier, il se trouve pour administrer des soins à des gens qui prennent les eaux, puisque Bagnères est une ville d'eau. Mais en fait, je crois qu'il y a plus que cela, je crois qu'il était probablement de Bagnères, et si les gays montagnards de Bagnères avaient dans leur petit registre les images du bon docteur Barachin, c'était probablement, puisque les images datent en fait de 1842, pas 45, c'est probablement parce que c'était un bagnéré. Et là, bon, mais ça, c'est pour la petite histoire. Il arrive à Paris en 1827, il est chirurgien-dentiste, et c'est là qu'il invente quelque chose de très utile, une liqueur odontalgique, donc qui fait passer les maux des dents, qu'il appelle l'eau de pyrètre du docteur Barachin. Pour ceux que ça intéresserait, le pyrètre, Tanacetum cinerarifolium, c'est un insecticide naturel que les poilus utilisaient pendant la Première Guerre mondiale, donc contre les poux. Contre les poux. Donc, je vous déconseille d'imiter Barachin. Mais enfin, vous voyez un peu le profil, quoi. C'est un chirurgien entrepreneur, disons. Ensuite, une aventure qui me paraît extrêmement intéressante dans le contexte qui nous intéresse. Il se retrouve, dans les années 1830, catapulté en Algérie. L'Algérie vient d'être occupée par les Français. Vous connaissez peut-être l'épisode du coup d'éventail dont le Dey d'Alger frappe le consul français en 1827 et qui devient le prétexte pour l'occupation de toute l'Algérie par les Français. La prise de Beaune, etc. Bon, le début des pages coloniales de la France. Des représentations extrêmement chauvines, il faut le dire, des Arabes fuyant devant les armées de la France, etc. Et Barachin joue un rôle intéressant en Algérie puisqu'il est à Oran et il est sous-intendant civil. Et c'est là qu'il apparemment s'intéresse à la politique et au sort des populations indigènes, comme on disait à l'époque. Et seulement, il a un conflit qu'il oppose à un certain... Attendez, où est-ce qu'il est ? Voilà. Un certain Xavier Boyer, connu comme Pierre le Cruel, un ancien des guerres napoléoniennes qui a fait des siennes en Espagne, qui a opprimé les guerrilleros espagnols, etc., et qui dirige la ville d'Oran. C'est le gouverneur militaire d'Oran. Et Barachin, du moins c'est ce qu'il dit, il perd son poste de sous-intendant à cause d'un conflit avec Boyer. Et ce conflit, on le retrouve dans deux publications de Barachin en 1833, donc une année à peine après sa démotion du poste de sous-intendant, une note traduite de l'arabe des plaintes de la population d'Oran adressées aux membres de la Chambre des députés et un discours préliminaire sur les considérations qui doivent servir de base au système administratif propre à la régence d'Alger. Je vous rappelle que Alger n'est pas encore une colonie, c'est la régence d'Alger qui est sous occupation militaire, etc. Et Barachin s'engage très fortement dans la défense des droits, des libertés et de la dignité des Algériens. Alors, il a ses propres distinctions, les Arabes, les Maures, les Kabyles, il parle de Kabyles, les Kabyles. Bon, mais il défend, en gros, la nécessité d'abandonner cette conquête oppressive de l'Algérie et de passer à un système plus juste, plus humain. Il est notamment écœuré par le fait que l'orientalisme dit toujours que ces Arabes n'ont ni foi ni loi et que par conséquent, ce que la France leur apporte, c'est la civilisation à travers la loi, à travers l'administration, etc. Il va jusqu'à tricher par l'étymologie et dire charte en arabe, charte, c'est, il regarde dans un dictionnaire, toute condition formulée, stipulée, toute proclamation du gouvernement au peuple et dans laquelle des engagements sont pris, c'est une charte en arabe, conventio, pactum, lex, stipulatio, conditio. Et, dit-il, cela prouve que les Arabes avaient le terme de charte bien avant nous, oubliant que charte, en français, vient de chartre, en ancien français, qui vient de carta cartula en latin et qui vient de charti en grec. Aucun rapport. Mais ça vous donne une idée un peu de la manière dont il veut défendre les intérêts des populations algériennes. Et voilà ce qu'il dit, par exemple, je vous cite, après le siège d'Oran, par exemple, « Voilà ce qu'a produit le gouvernement du Sabre, un gouvernement oppresseur, antipathique à tous les intérêts civils. » En fait, ce qu'il propose, et les habitants d'Alger qui signent cette pétition demandent qu'ils soient reconnus comme des individus libres et, en fait, qu'ils soient même reconnus comme des Français. C'est un point très intéressant puisqu'on sait que les Algériens musulmans n'auront jamais la nationalité. Ils auront la nationalité, mais pas la citoyenneté française. Même après la création des départements, vous avez une transition douce qui est faite pour les Juifs algériens, avec la loi Crémieux de 1870, qui leur donne automatiquement la nationalité française. Mais pour les musulmans, il faut en fait qu'ils renient leur religion et qu'ils prêtent serment aux principes de la République, etc. Donc ça ne se fait pas. Et ça, je trouve que c'est encore une fois très intéressant, puisque immédiatement, je me place dans une vision comparative de phénomènes qui se passent au même instant en Orient, chez les Ottomans, et en Afrique, chez les Français. Et c'est quand même surprenant, c'est une question qu'on ne pose pas vraiment, mais ce que les Français, les Anglais, les grandes puissances demandent aux Ottomans et ce qu'ils imposeront aux Ottomans en 1856, c'est-à-dire l'égalité de tous les habitants de l'Empire, c'est quelque chose qu'eux-mêmes n'appliquent pas à leur colonie. Il y a quand même une ironie assez grosse à cette distinction entre le droit colonial, le droit de la métropole à définir la citoyenneté dans les limites de ces territoires et d'y admettre des gens qui sont triés sur le volet ou des colons qui sont établis dans les colonies, et se tourner vers les Ottomans et leur dire ben « Vous devriez reconnaître l'égalité et par conséquent la citoyenneté, sujétion, de tous vos habitants, indépendamment de leur race, indépendamment de leur religion. » Et Barachin, du coup, devient un type intéressant. Il appartient, si vous voulez, à cette mouvance qui est très typique des années 1830-40. C'est un peu du saint-simonisme. Vous connaissez les saint-simoniens développent une sorte de philosophie mystico-religieuse du développement et de la civilisation et qui veulent, notamment parce qu'ils sont chassés de France, veulent l'exporter en Orient. Ils iront en Égypte, l'Égypte. C'est d'eux que viennent des idées assez originales, telles le percement de l'isthme de Suez, etc. Vous avez un exemple flagrant qui est celui du père enfantin, Prosper enfantin, le chef de la religion, dans les années 1830. Et lui, dans les années 1840, ira en Algérie pour s'opposer à la conquête qui continue, et cette fois-ci sous la présence très violente de d'un autre père, le père Bugeaud. Bugeaud, le général qui va obliger Abdelkader à se soumettre, etc., et qui est connu pour la violence de ses persécutions contre la population locale. Donc, je n'ai jamais trouvé de connexion entre Barachin, chirurgien, dentiste, grognard, etc., et les Saint-Simoniens, mais le profil, il est là, c'est-à-dire que c'est un éclairé ou un illuminé, un peu, qui veut transformer le monde autour de lui et qui trouve en Orient une terre fertile pour ce genre d'expérience. Cependant, il rentre en France, une fois chassé d'Oran, et en France, il redevient entrepreneur. Entrepreneur, en 1835, on le voit fonder, je cite, une société en commandite par action au capital de 100 000 francs dont l'objectif est, je cite, la création à Paris d'un établissement où l'on formera des gardes malades qui seront envoyés auprès des malades à Paris et dans les villes environnantes, et la confection, la location et la vente de toute fourniture et objets nécessaires aux malades. En fait, je trouve que c'est génial. C'est quelque chose. Je n'ai pas fait l'histoire de la médecine et des soins médicaux en France, mais ça me paraît, en 1835, une proposition assez révolutionnaire. Et je ne sais pas. En tout cas, elle ne semble pas avoir pris, puisque on le voit assiéger le ministère des Affaires étrangères pour se faire accepté comme chef de mission en Perse. Donc on voit bien qu'il ne réussit pas vraiment en France, et encore une fois, il préférerait plutôt aller en Perse. Il écrit, voilà sa signature, le docteur Barachin, il écrit au maréchal de Soult, qui est le ministre des Affaires étrangères à l'époque, et il est soutenu par le duc d'Orléans. Le duc d'Orléans, Henri V, le fameux fils aîné de Louis-Philippe, Louis-Philippe, donc le frère aîné du prince de Joinville que nous avions vu à Istanbul en 1839. Et finalement, au bout de 5 ou 6 années d'insistance, de persévérance, il finit par décrocher l'autorisation de se rendre en Perse à la tête d'une mission dont l'objectif n'est vraiment pas spécifié. On apprend d'ailleurs qu'en 1831, il avait déjà envisagé d'aller en Perse, et son projet était d'armer les Iraniens contre la Russie pour créer une diversion pour sauver les Polonais qui étaient en train de subir l'oppression des Russes. Donc, encore une fois, toujours prendre la défense du plus faible, des plans stratégiques internationaux, mondiaux, etc., un type étrange. Et finalement, en 1837, il parvient à décrocher cette autorisation et il va visiter toutes les académies, les sociétés savantes, etc., pour obtenir leur aval, en quelque sorte, pour pouvoir monter son expédition. Seulement, encore une fois, il semble avoir mêlé les affaires aux idéaux, puisqu'il a fondé, le 1er novembre 1837, une société au capital de 40 000 francs pour financer son entreprise. Mais cette société, elle finit mal. puisque de la vigne et Pillot de Bi, qui sont ses associés, ont été effrayés de l'extension que M. Barachin paraissait vouloir donner aux opérations et spéculations pour lesquelles ils s'étaient associés. Suivant eux, M. Barachin aurait conçu depuis le pacte social l'idée de fonder une nouvelle ville en Turquie, et il recruterait, pour arriver à ses fins, des architectes, des savants, des artisans, et comme il faut songer à l'avenir de la colonie, des femmes et des enfants. Les co-associés de M. Barachin ont calculé que les 40 000 francs ne suffiraient pas, etc., et donc la société est dissoute. Donc ça ne marche pas, mais Barachin s'en va quand même, et il arrive à Constantinople en 1838, au printemps 1838, probablement à la fin du mois de mars. Et immédiatement, plutôt que d'aller en Perse, immédiatement, il commence à assaillir la sublime porte de propositions, de rapports pour la modernisation, pour la transformation de l'Empire. Et la liste est longue. Voilà ce qu'il propose dans un premier temps. Le 4 avril, je crois, le 7 avril 1838, voilà ce qu'il écrit à Mustafa Reşit Pacha. Alors, je ne vais pas la lire, mais vous voyez qu'il y a un conseil de salubrité publique, la construction d'un grand nombre de moulins à vent, vous avez une machine pour fabriquer du bois, un bois de fusil en 5 minutes, vous avez la série de bulletins, alors vous avez des livres, vous avez... extraordinaire. Donc, le type est en train de déballer tout ce qu'il sait et d'envoyer ça à Mustafa Reşit Pacha, puisque Mustafa Reşit Pacha est à cette époque-là ministre des Affaires étrangères, et de toute façon, tout le monde sait que c'est lui l'architecte de la modernité, donc tout projet de modernité doit passer par... Et ça va jusqu'au bouton de métal pour les troupes et les fonctionnaires. Donc vraiment, c'est un colporteur, si vous voulez, un colporteur d'idées, de projets, d'objets, de technologies, etc. Et encore une fois, je me moque un peu, mais il y a souvent du sérieux, encore une fois, pour ces gardes-malades, moi, ça m'a surpris comme étant, à mon avis, quelque chose d'assez bien pensé, etc. Bon, donc, il y a de tout, et ça ne suffit pas. 10 jours plus tard, il envoie un second projet à Mustafa Reşit Pacha, et cette fois-ci, c'est un projet d'institution, carrément. Alors là, vous voyez, une école pour l'enseignement du français avec un amphithéâtre pour 1200 élèves. Vous êtes 450 ici. Vous voyez un peu l'ampleur de son projet. Une école des arts et métiers, une école des mines, une école d'agriculture. C'est, si vous avez lu Babar, c'est Célesteville. Hein, c'est le projet de monter une ville moderne qui serait la capitale d'un empire en pleine régénérescence. Deux halles au grain, des abattoirs. Plus tard, une bourse. Une école des beaux-arts, une académie de médecine, un cabinet d'histoire naturelle, un observatoire, une école de droit, un ou plusieurs théâtres. Vraiment, tout le paquet. Il veut faire d'Istanbul une sorte de Paris. Et c'est très surprenant, c'est très intéressant, mais ça n'est pas vraiment à prendre au sérieux. Mais, et d'ailleurs, vous connaissez désormais mon admiration pour Metternich. Metternich, dans son rapport du 3 décembre 1939, donc juste après la promulgation des Tanzimat, a un paragraphe que je trouve très intéressant, où il dit ce qui a le plus contribué à amener ce triste résultat de l'incapacité des réformes à se développer, c'est la facilité avec laquelle tout gouvernement qui se lance dans la voie des réformes accepte les services des hommes qui ne cherchent qu'à faire fortune. Les uns parce qu'ils veulent s'assurer à l'étranger une existence qu'ils ne sauraient trouver chez eux, et cela ordinairement en raison de leur incapacité, les autres parce que leur penchant les entraîne à faire prévaloir des théories qu'ils ne trouvent pas moyen de faire adopter chez eux. Entre les deux, les derniers sont plus dangereux que les premiers pour le pays où ils parviennent à exercer une influence personnelle. Est-ce que Metternich pensait à lui? Est-ce que Metternich avait Barachin en tête? Peut-être. Parce que ce qui est surprenant, c'est que le plan de Barachin réussit. Barachin est engagé par Mustafa Reşit Pacha. En fait, on établit un nouveau conseil Et voici ce qu'on dit lors de son établissement, un nouveau conseil, un conseil pour l'agriculture, l'artisanat et l'industrie, donc vraiment le progrès, si vous voulez. Et on dit, depuis plusieurs mois, le dissieur Barachin a passé son temps à rédiger des rapports sur les questions demandées, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme c'est un homme de connaissance, il a été demandé par l'Iran, mais il a choisi la sublime porte. Franchement, quand on sait que ses associés l'ont quitté parce qu'il avait déjà l'intention de fonder une ville en Turquie, on se dit que Istanbul, ça lui suffisait, et c'était probablement son objectif déjà au départ. D'ailleurs, et ça j'adore, contrairement aux autres Français, cet homme ainsi que l'autre, un certain Cor, sont tous deux fort honorables et bien élevés, et par conséquent, il est évident qu'ils seront très utiles. Donc, à peine un mois après son arrivée, il est recruté, engagé par le gouvernement ottoman et la gazette officielle, le Takvim-i Vekai, annonce le 7 juillet la création d'un conseil privé, Meclis-i Mahsus, chargé de promouvoir l'agriculture, le commerce, l'artisanat et l'industrie. Felahat, Vezirahat, Vetijahat, Vehelfet, Vesanat, qui se réunira à la sublime porte sous la présidence de Nouri Efendi, conseiller du ministère des Affaires étrangères, et dont les résultats seront soumis au ministre des Affaires étrangères, Régit Pacha, qui les soumettra à son tour à Sa Majesté le Sultan. Barachin n'est pas cité. Barachin n'est qu'un des 5 membres de ce conseil, mais il est là. Il est là. Il a réussi son coup. Il s'est implanté. Et son obsession des rapports prend de l'ampleur, puisque ce qu'il avait soumis à Régit Pacha, ça n'était qu'une liste. Maintenant, il commence à développer des rapports sur chacun des points qu'il avait proposés. Et là, il y a certains trucs qui sont assez évidents. Les considérations statistiques, c'est intelligent, parce qu'il met face à face, dans ce rapport, les statistiques françaises, qui sont assez bien connues, et les statistiques ottomanes qui ne sont pas très connues, pour montrer à quel point le potentiel de l'Empire ottoman est sous-utilisé. La surface, la population, et là, évidemment, il y a une différence énorme entre une France, je dirais pas surpeuplée, mais bien peuplée, et un Empire ottoman qui a l'air d'un désert comparé. Et ça, c'est le genre d'argument qui, effectivement, pour les Ottomans, a du concret, a une portée concrète, des considérations politiques, je reviendrai là-dessus, des considérations philosophiques sur la création et la destruction considérées comme éléments de prospérité dans un État. Alors là, il explique en gros que ça, c'est un argument qu'il utilise pour convaincre les Ottomans d'accepter la destruction et le remplacement de certaines institutions par des nouvelles, et que par conséquent, c'est de la destruction créative, etc. Réflexion sur l'organisation d'un service général de santé, bon. Colonie militaire, agricole et industrielle, je reviendrai là-dessus. Projet de règlement sur la création d'une pharmacie centrale, bon. Projet de règlement pour la propagation de la vaccine, c'est ce qu'on l'appelait à l'époque, dans l'Empire ottoman. La quarantaine, bon. Question sur la compatibilité ou non-compatibilité des fonctions publiques avec des entreprises commerciales. Intéressant. Donc, est-ce que... Bon. Et un projet d'organisation de l'administration de la santé militaire. Des projets qui sont parfois un peu loufoques, parfois des évidences, mais parfois... qui m'intrigue par la similitude, les ressemblances avec certains documents qui paraîtront en 1839. Nous sommes encore en 1838. Dans son projet sur les considérations politiques, où il s'efforce de montrer que ce conseil devrait être laissé libre de délibérer et que ces délibérations devraient atteindre le sultan automatiquement, il fait une petite liste de ce qu'il considère être essentiel pour la régénération de l'Empire. La garantie de la propriété à tout individu sans distinction. la liberté de l'industrie et de l'agriculture, la destruction des monopoles de tout genre, l'abolition des corporations, la régularisation des impôts, le droit de possession accordé aux étrangers. Alors, il y a un peu de tout. Vous voyez qu'il y a des relents de colonialisme, le désir, par exemple, de donner aux étrangers ce qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire la possibilité d'être propriétaires dans le pays. Mais le reste, ça rappelle drôlement quand même le décret des Tanzimates. Et encore une fois, il ne faut pas tomber dans le panneau d'imaginer qu'il y a une relation de cause à effet dès que vous voyez des ressemblances, mais il faut comprendre que c'était dans l'air du temps. Il y a de Loulkurhart, cet économiste écossais qui parlait du libre-échange et des ressources de la Turquie, il y a de cela aussi. Donc il est vraiment en plein dans cette mouvance des années 1838-39 où on essaye de trouver une formule pour faire revivre, ressusciter l'Empire ottoman. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un rapport qui deviendra loi. Et ça, les historiens turcs ne le savent pas, puisqu'ils ne connaissent cette loi que par sa promulgation dans la Gazette officielle. Et en fait, c'est un dérivé direct d'un des projets de Barachin. Et ce projet, c'est le projet de loi sur la pratique des avortements par violence. Parce que Barachin est un nataliste avant l'âge. C'est un type qui voit, un peu dans la manière physiocratique, si vous voulez, qui voit un rapport direct entre la population et les capacités économiques du pays. Il prône la multiplication de la population et par conséquent, il constate qu'en Turquie, comme il dit, les avortements sont pratiqués sans le moindre problème et dans des nombres impressionnants. Et par conséquent, l'un de ces rapports a trait à l'interdiction des avortements. Et lui, bien sûr, comme c'est un rapport occidental, il énumère les raisons pour lesquelles il trouve que c'est inhumain. Il ne parle pas de la vie humaine, il parle simplement de la dépopulation de l'Empire, etc. Tandis que le texte de la loi utilisera plutôt des arguments moraux, religieux, parlant de iskat jenin, c'est-à-dire l'avortement comme étant en fait pratiquement un infanticide, etc. Mais c'est lui. C'est lui. Et par conséquent, c'est un de ces rapports qui va jusqu'au bout, parce qu'il se plaint constamment dans sa correspondance avec les ministères à Paris, il se plaint du fait qu'il y a énormément de bureaucrates, d'hommes d'État, qui essayent de bloquer les projets de ce nouveau conseil. Et son autre projet, c'est donc cette colonie militaire agricole et industrielle. En gros, il s'agirait de réunir une petite armée, environ 500 hommes, armés, un peu de cavalerie, beaucoup de fantassins, leur donner un territoire d'environ une lieue carrée, donc à peu près 15 km carrés, leur donner des moyens de faire fructifier la terre avec alors des poules, des coqs, des vaches, etc. Et à partir de la deuxième année, d'y inclure des femmes pour continuer la reproduction de cette société. Et ça, c'est quelque chose qui est très en vogue en Europe à l'époque. C'est le modèle des phalanstères, des familistères, de Fourier, ces sociétés idéales qui essayent de recréer dans un environnement champêtre une sorte de commune qui va être autosuffisante, qui va se suffire à elle-même et qui va, d'une certaine manière, optimiser ses moyens de reproduction, de production, etc. Alors, ça, c'est un projet lui, il dit que tout le monde a été très intéressé, mais ça, c'est un projet qui ne passe pas. Donc, on n'a pas de retombée dans la législation ottomane ou même dans les commentaires. De toute façon, Barachin n'apparaît pas souvent dans les sources ottomanes, plus tard, mais différemment. Il n'y a pas de reprise de ce projet un peu loufoque qui reprend donc les principes de Barachin, de Fourier. Et dans une lettre au maréchal de Soult, le ministre des Affaires étrangères, voici ce que dit Barachin. La charte, ça c'est en novembre 1939, donc quelques jours, quelques semaines après la promulgation du décret des Tanzimat, la charte octroyée avec une si généreuse chaleur par le sultan Abdulmejid et proclamée par son illustre ministre Régid Pacha n'est rien autre chose que le procès-verbal de la première séance de notre conseil d'utilité publique rédigé par M. Corr sur les bases posées dans mes mémoires, moins ce qui concerne les étrangers et quelques détails que vous trouverez résumés dans mon second mémoire qui a pour titre « Considération politique ». Donc il se considère père, en quelque sorte, des Tanzimat. Je ne dis pas qu'il l'est, mais je dis que dans cette vaste discussion que nous avons dans l'historiographie ottomane entre les influences locales, Naqshbandi, etc., et puis le volet occidental avec Palmerston, avec Ponsonby, avec Mustafa Reshid, avec les textes que je vous ai montrés la dernière fois, et maintenant un Barachin qui lui aussi va exactement dans ce sens dès 1838, je crois que la cause de l'Occident est plus ou moins gagnée. Et encore une fois, je n'attacherai pas forcément beaucoup d'importance à ce qu'il dit, mais je crois que c'est quand même significatif qu'il aille vraiment dans le sens de la grande mouvance à cette époque-là. Le seul document que j'ai trouvé de cette période concernant son emploi par la porte est cette feuille de paix en 1840, où effectivement il est payé 6500 piastres, une somme considérable par mois pour ses services. Et puis, tout d'un coup, tout s'écroule. Tout s'écroule, il devient l'ennemi public numéro un. C'est-à-dire que ces images que je pensais s'inscrire dans la volonté ottomane de s'ouvrir vers une nouvelle conception de la sujétion, etc., ce sont des images qui, à partir de 1842, quand elles apparaissent, ce sont des lithographies, sont condamnées, rejetées, critiquées par les Ottomans avec une violence rare. Et de son côté, Barachin, lui aussi, va complètement changer de ton, de son discours d'égalité entre les nations. Il va passer à un registre très différent, et pourtant avec des recoupements, celui de l'émancipation des chrétiens. Tout d'un coup. Alors, que s'est-il passé ? Je ne sais pas encore. Et je ne le saurai probablement pas la semaine prochaine. Mais je ne le sais pas encore, mais ça vaut la peine de... Et là, quand vous regardez le texte, la légende de ses lithographies, vous voyez qu'il en est encore, en 1842, il en est encore... J'ai perdu le petit bouton, je ne sais pas... il en est encore à parler donc d'égalité civile et politique des populations, liberté religieuse complète, séparation du spirituel et du temporel, laïcité, en quelque sorte, et ça, il y tient toujours, droit de possession accordé aux étrangers. Mais en tout cas, il parle de la régénération de l'Empire ottoman consacrée et assurée par ses principes et sa devise, c'est « l'union fait la force » et « pluribus unum ». Donc c'est encore un discours qui est positif, qui va dans le sens de la régénération, etc. Et pourtant, en 1841, en juillet 41, Régid Pacha écrit à François Guizot, qui est alors ministre des Affaires étrangères, lui demandant se prémunir contre Barachin, qu'il appelle de tous les noms, car Barachin Et c'est là qu'on comprend déjà que la situation a énormément empiré. Barachin est allé faire quelque chose d'assez sournois. Il va dévoiler que Moussa Farid Chit Pacha est en fait l'auteur d'une plaquette qui a été publiée en 1839 et qui est pleine de commentaires extrêmement acerbes envers Mahmoud II, pas très étonnant, et envers sa propre population. Le dogme religieux des Ottomans, étroit et exclusif, ne peut former qu'une société en état d'hostilité avec tout ce qui n'est pas musulman et la constitue uniquement pour la guerre. Alors, est-ce vraiment Reshid Pacha ? Je n'en suis pas sûr. Mais c'est vrai que quand on voit la manière dont il critique Mahmoud en parlant d'un enfant gâté, ça rappelle un peu son mémoire qui se trouve dans les archives de Lord Palmerston en Angleterre. Et en gros, ce que Barachin va faire, c'est qu'il va publier, et cette gravure, cette lithographie, je ne l'ai pas trouvée, une lithographie qui apparemment donne les deux profils de Barachin lui-même et de Reshid, avec en dessous ces citations-là du statu quo d'Orient, où le texte est attribué explicitement à Moussa Farid Chit Pacha. Et alors là, bien sûr, c'est la crise. C'est la crise et c'est la rupture, c'est le divorce, et c'est là que Moussa Farid Chit Pacha va intenter un procès en diffamation contre Barachin, qu'il va plus ou moins gagner, mais enfin, il va en cassation, etc. Il va continuellement envoyer des plaintes au ministère français des Affaires étrangères pour qu'on interdise les publications et les lithographies de Barachin. Et Barachin, de son côté, va devenir de plus en plus méchant. Méchant parce qu'il va créer... Alors, il avait déjà créé en 1942 le journal oriental, la revue orientale, qui était la revue... Mais apparemment, je n'en ai pas trouvé un seul exemplaire, c'est cette revue qui donnait en annexe ses lithographies. Le conservateur européen... ça, c'est en 1800, que je ne dise pas de bêtises, ça doit être marqué là, 1842, vers la fin de l'année 42, c'est un numéro d'essai, mais ce qui est intéressant, c'est de lire un peu ce qu'il propose. En gros, plutôt que de vous le lire, je vais vous le montrer, voilà ce qu'il propose. Il propose que l'Empire ottoman soit réduit à une Othmanie, Osmanie, plus l'Empire. Tout ce qui est Serbie, Bulgarie, Valachie, Moldavie, etc., deviendra une confédération danubienne. La Grèce sera agrandie avec l'annexion de Crète, de l'île de Crète, de la Thessalie, de la Macédoine. Bref, c'est la Grèce d'aujourd'hui, pratiquement. L'Empire arabe, c'est ce qu'il appelle la Nouvelle-Égypte, qui va s'étendre vers les régences barbaresques, et enfin un royaume catholique de Syrie et de Chypre, qui va... c'est le Grand Liban, c'est la Syrie et le Grand Liban. Il y a beaucoup des projets des années du début du XXe siècle. Et par conséquent, il ne parle plus de la régénération de l'Empire, il parle en fait tout simplement de la partition de l'Empire ottoman, de la destruction de l'Empire ottoman, au nom de l'émancipation des populations soumises à son joug. Alors, j'ai encore quelques images que je vais vous montrer. Il va, dans la Gazette de France, qui est une gazette, qui est une feuille royaliste, légitimiste, il va publier un supplément qui est un énoncé de son programme, et c'est un énoncé extrêmement fort. Les Turcs sont incivilisables par eux-mêmes. Donc vraiment, on est passé à un registre, à un ton complètement différent. Et bien sûr, il revendique encore la défense des intérêts ottomans, puisqu'il compose un chant héroïque, la bosphorienne. Alors ça, je ne l'ai pas trouvé. Je vais demander à Nicolas Dufautel s'il arrive à trouver quelque part. Je vous la jouerai, je vous la chanterai la prochaine fois. Mais la bosphorienne ou l'Union orientale, dédiée à Sa Majesté impériale, le sultan Abdulmejid, mais bien sûr avec, dans le fond, toute cette histoire d'un nouvel empire qui n'est plus l'Empire ottoman, mais qui est un démembrement de l'Empire ottoman avec la création d'États selon des identités religieuses qui seront émancipées du joug des Ottomans. Voilà. Alors, simplement, c'est une histoire extrêmement marginale, c'est-à-dire que Barachin a fini par ne pas faire grand-chose dans l'histoire. Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est d'abord le défi de le ressusciter, le défi de trouver la documentation du côté ottoman et du côté français sur un individu marginal, dans tous les sens du terme. Mais d'un autre côté, tout en étant marginal, il a fini par frôler le pouvoir à des moments extrêmement importants. Et par conséquent, je trouve que c'est une tangente qui est, en tant que cas d'étude, extrêmement intéressante pour essayer de comprendre, pour essayer de se resituer dans l'esprit du temps, essayer de repenser quel était le contexte culturel, politique, idéologique de cette époque-là, au-delà des grands textes, les Tanzimat, etc., que nous connaissons bien, puisque là, vous avez des recoupements, vous avez des ramifications qui sont extrêmement intéressantes, avec parfois des envolées qui sont surprenantes de modernité et parfois des élucubrations dignes d'un charlatan, ce qu'il était aussi, j'imagine. Mais enfin, c'était pour moi un exercice, et encore une fois, c'est dans la logique que j'essaye d'adopter, de combiner un grand récit, les grands détails ou les grands points d'une période cruciale, avec des sondages en profondeur de cas qui, même marginaux, finissent par révéler énormément de choses concernant le détail, la réalité et la complexité d'une période, à mon avis, fascinante. Pour finir, je me permets de vous rappeler que la semaine prochaine, exceptionnellement, nous nous réunirons le 20 février, le jeudi 20 février, à 2h. Vous savez qu'il y a eu un report de mon premier cours et il n'y a pas de salle, cette salle n'est pas libre le vendredi 21 février. Donc nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, comme on disait à la télé, le jeudi 20 février à 14h, ici même, pour une conclusion qui va essayer de relier le bas Tanzimat au haut Tanzimat, le haut au bas, c'est-à-dire 1839 à 1856. Je vous remercie.